Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde d'aujourd'hui, Eric Manelakidza sur le micro, au sommaire de cette édition du lundi 2 octobre 2023. Tapis rouge déroulé au Congo pour le nouvel homme fort gabonais Brice Oligui Nguema. Au Mali, nouveau combat au nord entre l'armée et des gros problèmes. En RDC, la coalition politique au pouvoir, l'Union Sacrée, officiellement désigne Félix-Antoine Tshisekedi candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre. Madagascar, le président sortant dénonce les agissements de l'opposition qu'il accuse de créer de toutes pièces une nouvelle crise politique. Au Nigeria, le président Tinubu annonce des mesures pour compenser la hausse du coût de la vie. En Libye, report d'une conférence internationale pour la reconstruction de la ville de Derna dévastée par les inondations meurtrières du 10 septembre. L'Ukraine, laissée pour compte de l'accord sur le shutdown aux États-Unis. Pour éviter une paralysie de l'administration fédérale, le président Biden assure que Washington n'abandonnera pas l'Ukraine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Echo. Pour l'instant, le journal. De nouveaux combats ont opposé dimanche matin l'armée malienne et des groupes armés à Bamba dans le nord, localité dont les rebelles séparatistes ont revendiqué avoir pris le contrôle. L'armée malienne a rapporté sur les réseaux sociaux des combats intenses entre des terroristes aux premières heures du jour. Le président de la transition gabonaise, le général Brice Oligui Nguema, a été reçu hier dimanche à Oyo, au nord du Congo-Brazzaville, par le président Denis Sassou Nguesso. Après un premier voyage en Guinée équatoriale, le général Oligui Nguema a mené un plaidoyer auprès de Sassou Nguesso afin que la situation du Gabon soit connue du monde entier. De Brazzaville, la correspondance d'Arsène Sèvres.
Accueilli par le Premier ministre Anatole Coliné Makosso à l'aéroport international de Lombo, à quelques 400 km au nord de Brazzaville, le général Oligui Nguema a aussitôt été conduit à Oyo, où il a rencontré le président Denis Sassou Nguesso. À l'issue du tête-à-tête que les deux hommes ont eu, le président de la transition gabonaise a déclaré: « Je suis venu consulter et échanger avec le patriarche Denis Sassou Nguesso, qui est pour nous un atout important dans la sous-région et qui peut également transmettre au monde entier ce qui s'est passé au Gabon. » Le président de la transition gabonaise s'est aussi incliné devant la tombe de Edith Lucie Bongo Ondimba, l'ex-première dame du Gabon. Cette dernière, fille de Denis Sassou Nguesso, a eu deux enfants avec feu Omar Bongo Ondimba. Omar, Denis Junior et Yassine Kwini ont accompagné le général Oligui Nguema au cimetière familial de Konakona à Oyo. L'homme fort de Libreville quitte Oyo ce lundi au terme d'une visite de 24 heures. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a annoncé dimanche une hausse temporaire du salaire minimum pour les travailleurs les moins bien payés et des transports publics moins chers afin de compenser l'impact de ces récentes réformes économiques. Ces annonces interviennent deux jours seulement avant que les deux principaux syndicats du pays ne prévoient de déclencher une grève annoncée comme illimitée pour protester contre la hausse des coûts de la vie, en particulier des transports. Le président sortant de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a été officiellement désigné dimanche candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre par la coalition politique au pouvoir, l'Union Sacrée. Dimanche, un congrès de la coalition de l'Union Sacrée, où figurent des poids lourds politiques comme le ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba et son collègue de l'économie Vital Kamerhe, a désigné Félix Tshisekedi à l'unanimité. L'un de ses principaux adversaires politiques, Martin Fayoulou, arrivé deuxième en 2018, a confirmé sa candidature samedi. L'ambassadeur du Rwanda à Londres a critiqué dans des propos filmés à son insu la politique migratoire du gouvernement britannique conservateur avec qui son pays a conclu un accord pour accueillir des migrants. Le président sortant de Madagascar et candidat à sa réélection, Andy Rajoel, a dénoncé dimanche soir les agissements de 11 candidats de l'opposition qu'il accuse de créer de toutes pièces une nouvelle crise politique. Les autorités de l'Est de la Libye ont annoncé dimanche le report à début novembre d'une conférence internationale pour la reconstruction de la ville de Derna, dévastée par les inondations meurtrières du 10 septembre, dans un pays gouverné par deux administrations rivales et rongé par la corruption. Nani Tetalani.
Accueillie avec scepticisme par la communauté internationale, la conférence, initialement prévue le 10 octobre, a été reportée au 1er et 2 novembre, a annoncé le comité préparatoire dans un communiqué invoquant des raisons logistiques. Le comité veut donner le temps nécessaire aux sociétés et bureaux d'études pour préparer leurs projets. Le report a été décidé à la demande des maires des communes sinistrées et des compagnies qui ont manifesté leur intérêt de participer, a précisé le chef de ce comité. Les États-Unis semblent avoir déjà choisi de bouder le rendez-vous, estimant vendredi que la proposition d'organiser une conférence sur la reconstruction le 10 octobre serait beaucoup plus efficace si elle était menée conjointement et de manière inclusive, selon un communiqué de l'ambassade des États-Unis en Libye. Les inondations provoquées par la tempête Daniel et amplifiées par la rupture de deux barrages en amont de Derna ont fait 3 893 morts, selon un dernier bilan provisoire du gouvernement de l'Est.
Six ONG internationales et égyptiennes des droits humains ont appelé ce lundi l'ONU à examiner le recours systématique à la torture par l'Égypte, qualifiant cette pratique de crime contre l'humanité.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont évité in extremis la paralysie de leur administration fédérale avec l'adoption par le Sénat à 3 heures seulement du shutdown d'une mesure d'urgence permettant de continuer temporairement, soit pour 45 jours, son financement. Le président américain Joe Biden s'est félicité de l'accord intervenu samedi au Sénat et a appelé le Congrès à approuver rapidement l'aide à l'Ukraine qui a été exclue de l'accord. John Lindon.
Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l'Ukraine soit interrompu, a déclaré M. Biden dans un communiqué. Je m'attends à ce que le président du Congrès respecte son engagement envers le peuple ukrainien et garantisse l'adoption du soutien nécessaire pour aider l'Ukraine en ce moment critique, a ajouté le président, faisant référence au chef de file des Républicains à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Les législateurs doivent à présent se pencher sur un projet de loi distinct portant sur une aide militaire et humanitaire de 24 milliards de dollars à l'Ukraine que M. Biden souhaitait voir figurer dans le budget. Un vote pourrait avoir lieu cette semaine selon les médias américains. De son côté, Kiev a annoncé dimanche travailler pour s'assurer que la nouvelle décision concernant le budget américain qui sera prise dans les 45 prochains jours comprendra de nouveaux financements pour aider l'Ukraine, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko.
L'ancien président américain et prix Nobel de la paix Jimmy Carter a fêté dimanche ses 99 ans, quelques mois après avoir été pris en charge d'un soin palliatif à domicile. Il est le président américain le plus âgé encore en vie, Lionel Gahima.
Des dirigeants du monde entier, des célébrités et des Américains se sont empressés d'adresser leurs vœux à l'ancien dirigeant démocrate, né le 1er octobre 1924. Je vous admire car vous avez une intégrité, une force de caractère et une détermination incroyables, a dit le président Joe Biden sur le réseau social X. Que Dieu vous garde, bon anniversaire mon ami. La Maison Blanche que Jimmy Carter a occupée de 1977 à 1981 a pour l'occasion installé dans son enceinte un gigantesque gâteau en carton orné de 39 bougies. En l'honneur de celui qui fut le 39e président des États-Unis, artisan des accords de Camp David qui ont abouti en mars 1979 à la signature du traité de paix israélo-égyptien, Jimmy Carter occupe une place à part dans le paysage politique américain
plasternie par la crise des otages américains en Iran en 1979-1980. Après avoir quitté la Maison-Blanche, il a fondé le Carter Center en 1982 pour promouvoir le développement, la santé et la résolution des conflits à travers le monde. Il a reçu en 2002 le prix Nobel de la paix.
Donald Trump a annoncé dimanche soir qu'il comptait être présent ce lundi à l'ouverture du procès civil à New York, dans lequel l'ancien président américain est accusé d'avoir gonflé pendant des années la valeur des actifs immobiliers et financiers de son entreprise. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Alexandrine Rolognon.
L'Allemagne accordera un financement de 81 millions d'euros à la CEDEAO pour la consolidation de la paix et le développement économique. Selon l'agence Ecofin, 4 pays membres du bloc régional ont connu des coups d'État depuis 2020 et sont actuellement dirigés par des militaires. La Banque mondiale a proposé jeudi des mesures qui permettraient d'augmenter ses prêts aux pays en développement de 100 milliards de dollars supplémentaires sur une décennie, dans le cadre d'un processus de réforme en cours visant à aider la banque à élargir sa mission pour y inclure le changement climatique. Ce montant s'ajouterait aux mesures déjà mises en œuvre qui augmenteront les prêts de la banque aux pays en développement de 50 milliards de dollars. La société de streaming Netflix met officiellement fin à son service de location de DVD par correspondance aux États-Unis, fondation en 1998. De son modèle initial, le groupe a lancé dès 2007 une plateforme de streaming qui allait devenir son vaisseau amiral, lui permettant de s'ajuster au déclin progressif des DVD.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Élisée. Bonjour Élisée.
Bonjour Erika et bonjour à tous.
On commence par la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Le Mali et la Côte d'Ivoire gardaient leur trophée à Grand Popo au Bénin.
Oui, les aigles maracaniens au niveau des super seniors ont dominé en finale la Côte d'Ivoire, score 4 buts à 2. Les éléphants ont repris leur revanche chez les seniors en battant 1-0 le pays hôte, le Bénin.
Football à présent avec le dernier tour préliminaire au retour des interclubs de la CAF.
Et en Ligue des Champions, les grosses écuries ont validé leur ticket pour la phase de poule. Le tenant du titre à la Ligue du Caire, sans trembler face aux Éthiopiens du Saint-Georges. Le Wydad de Casablanca, 3-0 au retour face aux Guinéens de Oroya. Le TP Mazembe y sera aussi après avoir écarté Big Bullet de Malawi, tout comme les deux clubs tunisiens, l'Espérance de Tunis et l'Étoile du Sahel. Ça passe également pour les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, les Angolais du Petro Atlético et les Égyptiens du Pyramide.
La SEC Mimosa y sera 4 ans après.
Tout à fait. Le club ivoirien retrouve la phase de poule de cette Ligue des Champions après 2019 suite à sa victoire 2-1 face aux Libyens de Benghazi. Parmi les autres résultats, qualification de Simba après son nul face aux Zambiens de Dinamo Power, le FC Mladibou pour sa première après avoir dominé l'AS Riyad de Bamako et le Al Hilal du Soudan élimine les Angolais du Primeiro do Agosto avec un succès de 2-1 au match retour. Et par contre, fin de parcours pour le Oroya de Conakry. Pour la première fois depuis 2017, le club guinéen ne verra pas la phase de poule puisque éliminé par les Ghanéens de Mediama.
En Coupe de la Confédération, le tenant du titre a assuré sa place parmi les 16 qualifiés.
L'USM Alger s'est qualifié suite à son nul 0-0 contre le Fils du Rabat. 1-1 à l'aller. Le club algérois bénéficie donc de la règle du but marqué à l'extérieur. Autre qualifié, les Diables Noirs du Congo après leur succès 2-0 sur les Zambiens de Moussa, les Tunisiens du club africain, aux dépens des Éthiopiens de Bahada et des Égyptiens de futur FC Tombeur des Tanzaniens de Singinda. En revanche, l'aventure s'arrête là pour les Congolais de Lupopo sortis par les Sud-Africains de Chekunkun.
De son côté, le Zamalek du Caire passe in extremis devant les Djiboutiens d'Arta Solar.
Les Égyptiens s'imposent 4-1 avec 4 buts en seconde période. Ils se qualifient 4-3 sur l'ensemble des deux matchs. Le Stade malien valide aussi son ticket après avoir éliminé au tir au but les aigles noirs du Burundi, tout comme Renaissance de Berkane qui a sorti les Nigériens de Bendel Insurance. L'autre club nigérian, Rivers United, y sera après avoir battu 2-0 les Burkinabés de l'Étoile Filante. Et qualification également des Angolais de Sagrada Esperanza, des Ghanéens de Dream FC, des Ougandais de Kampala City et des Guinéens de Koya.
C'était les sports avec Élisée Sonné.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui, de retour avec vous, Eric Manirakiza. Place au dossier du jour. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a dressé un bilan de sa première année à la tête du pays. Il a souligné des avancées significatives dans la lutte contre le terrorisme. Mais son bilan suscite des opinions divergentes parmi les Burkinabés. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Un entretien d'un peu plus d'une heure a été diffusé à la télévision nationale. Un an après sa prise du pouvoir le 30 septembre 2022, le président de la transition était attendu sur son bilan. Selon lui, le tableau est plutôt reluisant, même si la guerre n'est qu'à sa phase introductive. Capitaine Ibrahim Traoré.
Les réseaux, aujourd'hui, vous partez, vous circulez. Donc, c'est mieux que les gens aillent constater. Mais on ne veut pas que les gens s'exposent en se filmant et puis en montrant. Il n'y a pas cette partie du Burkina où nous ne pouvons pas mettre pied. Même si demain nous sommes à 100%, on fera peut-être des escortes. On va protéger nos itinéraires. Parce que c'est une guérilla, c'est une guerre. Deux, trois, quatre individus sortent et voilà, commettent des dégâts sur quelques camions et puis ils disparaissent.
Idriss Ouédraogo, analyste, spécialiste de la communication, pense aussi qu'il y a des avancées importantes dans la lutte contre le terrorisme.
Concernant quelques sujets comme la sécurité, où il dit avec à notre étonnement que la guerre n'a pas encore commencé. Et l'étonnement vient du fait que on voit tous les jours des opérations qui s'enchaînent. On voit qu'il y a un effectif considérable au niveau des forces combattantes. On voit un équipement tant sur le vecteur aérien que sur tous les autres compartiments d'équipement. En tout cas, on se rend compte qu'il y a de l'activité au sein de l'armée, même la réorganisation de l'armée est pour... considérer que tout ça n'a pas encore commencé, ça peut donner espoir que dans les mois à venir, ce sera une victoire décisive et visible pour sortir des différents doutes.
Mais Adama Bayala, analyste politique, n'est pas d'accord. Il réagissait sur la chaîne de télévision privée BF1.
Je dois reconnaître aujourd'hui qu'il y a des localités au Burkina Faso qu'on ne peut joindre, contrairement à ce que le chef de l'État a dit dans son discours. On peut aller partout. On ne peut pas aller partout librement comme c'était le cas hier. Il y a des localités pour lesquelles on voudrait effectuer des voyages. Il faut attendre des convois. Il y a des localités qu'on voudrait joindre. Il faut attendre d'être programmé peut-être un mois, une semaine, deux semaines pour être héliporté.
Sur l'organisation des élections qui doivent marquer la fin de la transition, le capitaine Traoré a été clair. Il n'y aura pas d'élections concentrées à Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Pour lui, partir aux élections n'est pas une priorité. C'est la sécurité qui est une priorité, a-t-il insisté, en appelant les Burkinabés à rester mobilisés pour défendre la transition. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Cameroun, le gouvernement affirme avoir alloué plus de 100 milliards de francs CFA depuis mars 2022 pour répondre aux revendications des enseignants. Cependant, certains syndicats et mouvements d'enseignants ne se disent pas satisfaits et maintiennent la grève prévue le 5 octobre. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules-Ntap.
75 milliards 200 millions ont été payés aux seuls agents publics du ministère des enseignements secondaires au titre des rappels sur les avancements d'échelon et de grade. Louis-Paul Moutazeux, ministre des Finances.
Nous avons fait un plan d'apurement de ces rappels qui a été publié et ces rappels vont être payés dans le premier plan de trésorerie parce que tout cela doit rester soutenable. Un plan d'apurement a été fait à raison de 3 milliards de francs CFA par mois.
C'est justement le plan d'apurement de la dette qui constitue l'un des points de discorde. Jean-François Elongango, président du syndicat national des enseignants du secondaire.
J'ai été formé à Yaoundé et j'ai été envoyé à 1476 km de Yaoundé. J'étais à Yagoua. De Yaoundé pour Yagoua, il m'a fallu attendre un an pour percevoir ce qu'on a appelé les frais de relève. Pendant cette année-là, je me suis déplacé comment ? Sans bourse indiciaire pendant ma formation. c'est autant de choses que nous pensons sur lesquelles il va falloir vraiment revenir et corriger.
Alors, les syndicats exigent au gouvernement de publier avant le 5 octobre la date du Forum national de l'éducation. Jacques Famdongo, ministre de l'enseignement supérieur.
Le gouvernement de la République tient à ce forum national. Il n'est pas rejeté au calendrier grec. Il aura lieu, mais attention, nous avons besoin de nous retrouver pour reformater tout cela et proposer à notre hiérarchie un document adapté à la conjoncture économique, sociale, culturelle et politique actuelle.
Le Forum national de l'éducation est attendu depuis 2008. Le syndicaliste Michel Camon est indigné.
Nous comprenons que c'est un système de gouvernance et c'est un mode de gestion politique. Puisque quand il faut de l'argent pour autre chose, il y en a. C'est exprès que l'éducation soit bafouée comme ça, que les enseignants soient maltraités comme ils font là, et justement que les maîtresses en classe, au lieu d'enseigner, vendent les biscuits ou les bonbons.
Le gouvernement dit être de bonne foi. Pour preuve, le processus d'intégration des enseignants a été simplifié depuis mars 2022. Joseph Lé, ministre de la fonction publique.
Jusqu'à l'année dernière, il fallait attendre 3 ans pour être intégré. Aujourd'hui, on peut être intégré en 1 mois et 17 jours. Demain, on sera intégré en 1 ou 2 semaines. Je prends publiquement l'engagement et nous allons le faire.
Quant au statut particulier des enseignants, c'est toujours le silence radio du côté du gouvernement. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Au Nigeria, les deux principaux syndicats de travailleurs ont annoncé le déclenchement d'une grève illimitée à partir du 3 octobre pour protester contre le coût de la vie consécutive à la suppression des subventions sur les carburants, ce qui a entraîné une augmentation des prix à la pompe. Les autorités fédérales n'ont pas répondu favorablement à leurs demandes malgré l'expiration de l'ultimatum le 21 septembre dernier et l'échec des négociations. Gilbert Tamba à Abuja.
Rien ne va plus entre les syndicats nigériens et le gouvernement fédéral depuis la fin des subventions sur le carburant il y a 3 mois. Les rencontres et discussions avec le ministre du Travail et d'autres représentants du gouvernement fédéral n'ont rien donné. Les 10 syndicats ont mené une grève d'avertissement de 10 jours en août dernier. Festus Osifo, président du Congrès des syndicats du Nigeria, TUC.
Le NLC et le TUC se sont réunis et ont résolu ce qui suit. Premièrement, d'entamer une grève illimitée et la fermeture totale de toutes les institutions de la nation à partir du mardi 3 octobre 2023 à 0h. Troisièmement, nous demandons à tous les travailleurs du Nigeria de cesser leurs services à leur lieu de travail respectif à partir du 3 octobre 2023.
10 exigences sont sur la table des négociations, notamment le prix élevé du carburant à la pompe, le paiement des arriérés des salaires des enseignants des universités publiques, la renégociation du salaire minimum des travailleurs de la fonction publique et la remise en fonction des raffineries nationales, entre autres. La puissante centrale syndicale des travailleurs, NLC, accuse les autorités fédérales de faire preuve d'un manque flagrant de volonté pour répondre à leurs revendications. Joe Adjero, président du NLC.
Le gouvernement a totalement abandonné sa responsabilité et fait preuve d'une réticence flagrante à agir, laissant le peuple et les travailleurs dans une pauvreté et une affliction hallucinante. Le gouvernement fédéral n'a pas répondu de manière substantielle à nos revendications, comme nous avions discuté auparavant, après une feuille de route mutuellement convenue.
La conséquence, selon les syndicats, c'est la fermeture totale des locaux des institutions publiques à partir de ce mardi jusqu'à ce que le gouvernement réponde à la demande des travailleurs. Dans les rues d'Abuja, la capitale, les avis sont partagés.
Nous devons mettre en garde ces gens. Les populations souffrent. Les gens n'ont même pas les moyens de se déplacer pour se rendre au travail. C'est leur droit de faire grève pour qu'on puisse s'occuper d'eux. Parce que s'ils travaillent, vous verrez que tout va bien. Mais s'ils ne sont pas au travail, cela montre qu'il se passe quelque chose. Donc, leurs revendications doivent être satisfaites. Je soutiens pleinement la grève.
Et ces derniers mois, en raison de la hausse des prix du carburant qui a fait grimper les coûts de production et de transport. La monnaie locale, le Naira, a également chuté de manière significative par rapport au dollar américain et s'échange en moyenne à 1000 Naira pour un dollar, entraînant une augmentation du coût des importations. Dans son adresse à la nation pour célébrer les 63 ans d'indépendance du Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a eu ces mots pour les syndicats grévistes.
Nous ne sommes peut-être pas toujours d'accord, mais j'apprécie vos conseils et vos recommandations. Vous êtes mes frères et sœurs et vous avez tout mon respect. Chers compatriotes, l'aventure qui nous attend ne sera pas guidée par la peur ou la haine. Nous ne pouvons parvenir à un Nigeria meilleur que par le courage, la compassion et l'engagement.
Le gouvernement appelle les dirigeants syndicaux à suspendre la grève et à laisser la place aux négociations, invoquant les dégâts imminents que cette grève pourrait causer à l'économie nationale. Gilbert Samba, Abuja pour VOA Afrique.
Depuis plus d'un an, le Bénin s'est engagé dans la promotion et la préservation de l'héritage laissé par les Amazones, une redoutable armée de guerrières qui a joué un rôle crucial dans les victoires du royaume du Dahomey, aujourd'hui le Bénin. Mais qui étaient exactement les Amazones et comment les Béninois perçoivent-ils cette initiative du gouvernement visant à transmettre certaines de leurs valeurs aux femmes béninoises? Les détails dans ce reportage signé Ginette Fleur-Adambé.
L'histoire est racontée différemment, mais toutes les versions convergent. Les Amazones, encore appelées Agodiers au Bénin, ont été de véritables guerrières qui se sont démarquées par leur bravoure. Benjamin Badou est guide touristique au palais d'Abomey, ville historique qui regorge encore des bribes du passé des Amazones.
C'est Gezo vraiment qui a recomposé l'armée des Agodiers et là les a scindés en régiments avec des spécialités où il y en a qui étaient des faucheuses, il y en a qui tiraient à l'arc, il y en a qui vont voilà. La première formation c'était le combat corps à corps parce qu'à la base il n'y avait pas d'armes à feu. Il y avait des formations dans les marécages, il y avait des formations dans la brousse, donc il fallait être apte à tous les environnements possibles, à tous les possible. Et c'était de tout terrain, en fait.
Fondée en 1708 par la seule reine de l'histoire du Dahomey pour se protéger de ses nombreux ennemis, l'armée des Amazones est devenue une unité d'élite féminine, jurant fidélité jusqu'à la mort. Gavin Dimassé est historien.
Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé par les appeler Agodiers. Agodiers, tout simplement parce qu'elles disposaient dans leur équipement, pendant ce temps, une arme qu'on appelle la dague, qui est un couteau là, à tout tranchant, qu'elles avaient dans leur ceinture en bande tissée, si bien que quand tu penses que tu l'as désarmée, tu l'as maîtrisée et tu la terrasses, ne te hasardes pas à vouloir la maîtriser au sol. Elle va te dégager à gaudier, en vrai, veut dire, autour-toi de moi.
C'est un hommage à leur bravoure que les autorités ont érigé, non loin du palais de la présidence, une statue représentant l'Amazone, haute de 30 mètres et pesant 150 tonnes. À la cérémonie de dévoilement du monument tout en bronze, Jean-Michel Abimbola, le ministre de la Culture.
C'est l'aura de toutes les femmes du Bénin d'hier et d'aujourd'hui qui est ainsi mise en évidence. C'est leur combat en tant que fille, femme, mère, grand-mère qui est décrit et mis en perspective.
Le président de la République est heureux d'être celui qui a permis cet éveil autour de l'histoire des Amazones afin que la mémoire ne se perde.
Ce qu'il faut retenir, c'est le serment, la combativité et le sacrifice suprême dont ces femmes ont été capables pour défendre la patrie. Ce qui importe, c'est que au Bénin, autant que les hommes, des femmes se sont distinguées par ces valeurs et ont brisé le mythe du sexe faible.
Au Bénin, même si l'unanimité ne se fait pas autour de l'identité des Amazones, vouloir inculquer leurs valeurs héroïques et combatives est très bien accueilli. Yannick Maouignon est informaticien.
C'est le symbole de bravoure, de loyauté, de fidélité, de courage extrême. Alors quand ces valeurs-là sont léguées, sont incarnées par des jeunes filles, des femmes, la conséquence directe, c'est que leurs enfants prennent également ces mêmes valeurs-là.
Pour d'autres, celles qui se proclament féministes, réclamant tous les droits sans aucun combat, devraient prendre exemple sur les Amazones.
Il n'est pas compréhensible aujourd'hui que, disons, l'égalité veuille se proclamer. Non, il faudrait qu'on puisse montrer l'égalité de fait.
En redonnant plus de visibilité à l'histoire des Amazones, les autorités espèrent fait naître en chaque béninoise autant de qualité que de valeur afin de jouer pleinement leur partition dans le développement national. Écoutons-nous une autre agenda pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manilakiza à son micro, à la mise en onde, Lionel Bounanakalima. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.